Et bienvenue encore une fois à La Causeuse.
Salut!
Salut!
Hey!
Comment allez-vous?
Ben, tu sais, hein, j'aimerais ça vous dire à quel point j'aime ma Switch, mais on enregistre avant que je l'aie reçue, fait que je sais pas.
Ça devrait être l'épisode qui sort en même temps que... Ben, la semaine d'après, fait qu'entre nos deux enregistrements majeurs qui... J'espère qu'on l'a reçu.
J'espère.
On devrait avoir joué à la Switch au moment où on se parle.
Ben, c'est sûr qu'on va avoir joué. OK. C'est sûr.
C'était même... bon, hein?
Non, c'était... Non, j'ai... Zelda, wow! Tu sais, puis...
Bomberman,
ça, c'est des vrais early reviews.
Fuck vos astis d'embargo. Nous autres, on est peut-être pas comme rétro nouveau, là. On se bat shipper de Switch par la main.
Mais on a le droit d'en parler vu qu'on n'a pas pour vrai.
Je suis pas amère pantoute. en fait, la grosse. Ça va bien. La cause de cette semaine, en fait, est une suggestion de Propos Montréal. On a demandé à nos Patreons de nous fournir des idées de sujets. Et comme on est rebelles, bien sûr, on va parler d'émulation, mais pas du tout de ce qu'ils voulaient qu'on parle.
Ben, ils voulaient qu'on laisse Jeff parler.
Fait que, premièrement.
Je vais essayer de prendre la parole. Hein?
Mais
on va entendre le son mielleux de ma voix.
OK, hey, ça suffit.
Coupe son micro.
Mais, en fait, on s'était fait demander quels sont nos émulateurs préférés, quels sont les meilleurs émulateurs pour différentes plateformes. Honnêtement, c'est pas une réponse que je pourrais facilement répondre parce que je fais pas beaucoup d'émulation.
Non,
en fait,
non.
Dans ma vie adulte, je ne fais pas beaucoup d'émulation. Ce serait faux de dire que j'en ai pas fait. Puis, il y a plein de... Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Il y a cet argument-là aussi à part. Mais en dehors de ça, l'émulation, par contre, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, puis utile. Fait qu'il y a pas, c'est pas une question de « Ah, moi, l'émulation, là, c'est pas bien, t'es bien mieux de jouer sur le matériel original parce que les jeux étaient faits pour un jeu. » Non, c'est pas ça, là. T'sais, oui, il y a des imperfections à l'émulation. Bon.
Matt, remonte tes lunettes, ils tombent sur ton nez.
J'en ai pas.
Je pense que t'as un crayon qui coule dans ton pocket protecteur.
J'en ai pas. Et... Bon, bref, premièrement, l'émulation, c'est sûr que si on a le choix, parce que je me rappelle quand j'étais ticu, qu'on a commencé à toucher aux émulateurs, au charmant Nestickle, que l'icône était une paire de...
C'était clair qu'il y avait un gag de Nestickle qui s'en venait, là.
Que l'icône était une paire de couilles poilues.
Ouais.
Pour la version Windows.
Fait que Matt se touchait le Nestickle.
Régulièrement. Et, mais qu'on savait pas, c'était comme, oh, c'est magique, tu peux jouer à tous tes vieux jeux sur ton ordinateur, puis on s'entend qu'un jeu de NES, même si nos connexions étaient en 56K. Là,
ça se dondait bien.
C'était pas trop un problème.
Un jeu de NES, ça rentre une vieille floppy. Mais même plusieurs NES. Un jeu de NES, une vieille floppy.
Je tranche de vie. J'allais chez mes amis qui avaient Internet, puis j'allais downloader des jeux, puis j'ai ramené à la maison sur des étiquettes 3 pouces.
Ça ne t'intéresse pas vraiment à ce vieille floppy de tes amis.
Ça m'intéresse pas ce que tu fais avec ton vieux 3 pouces. Là, mais...
Ouais, ben c'est ça, on est trop jeune, hein, parce qu'être un peu plus vieux, t'aurais pu avoir un 5 et quart. T'es trop demi.
En montant.
Elle était plus molle, mais.
Faut jamais enlever le safety de tout ça. Alors, ça semblait magique, on pouvait jouer à tous ces jeux-là,
oui.
mais déjà là, si vous avez commencé à jouer avec votre floppy, non, avec des émulateurs aussi longtemps que moi, il y a plein de jeux qui marchaient pas ou pas correctement. Je me rappelle particulièrement de Castlevania 3, qui les sections, ce qu'on montait, ce qu'il y avait des escaliers, donc des segments verticaux, ça marchait pas correctement. Pour des raisons de mapper, etc. Bref, les émulateurs sont imparfaits. Oui. Puis même les meilleurs émulateurs sont majoritairement imparfaits.
Mais à l'époque, là, juste on parle de ça, là, juste les contrôles, là, c'était pas aussi facile d'avoir une manette qui était facilement utilisable pour aller faire les mappings de boutons. Là, c'était pas facile de faire ça. Là. Maintenant, c'est une connerie. Là, tu branches pas près n'importe quelle manette dans ton Windows puis est reconnu.
Puis dans le temps, les gamepads étaient comme génériques. Là, t'avais pas des émulateurs, des copies d'une manette de Nintendo.
Mais tu connais un petit joystick dans le milieu du...
Tu parles-tu du Gravis gamepad, toi, là? Tabarnak!
Tout le monde a eu ça, hein?
Un bon gamepad PC que tu trouvais donc bien cute, mais que c'était le fun de jouer à rien avec ça, là.
À peu près.
OK. Mais bref, c'est ça. Fait que mon problème avec l'émulation, s'il y a un problème, c'est que c'est imparfait. Puis il faut faire attention parce qu'il y a tellement de gens qui jouent au jeu par émulation puis qui se rendent pas compte qu'il y a une version intégrale de ces jeux-là qui existe puis que l'audio est différent, les palettes de couleurs sont différentes. Le Nintendo, là, le monde sont tellement habitués à la palette émulée du NES qui est vraiment hyper vibrante. Puis pourtant, la palette du NES est beaucoup plus terne, est beaucoup plus sobre que ce qu'on voit tout le temps des émulateurs. Il y a des émulateurs qui vont l'offrir, mais c'est à cause des télés, comment tout ça est géré, mais on a une distance, justement. Le mode rétro présent, il est artificiel en une certaine mesure. T'sais. Il y a un amour pour une version qui n'a jamais existé.
Mais je trouve ça fait un parallèle avec le Video Game is Art, dire que les jeux vidéo sont de l'art. Mais comme on va préserver les toiles, on va préserver la musique, on va préserver les sculptures, peu importe, les jeux vidéo méritent d'être préservés, mais ils méritent d'être expérimentés si on est capable, dans le plus proche de la réalité.
Sauf que justement, c'est là que l'autre point genre louable et important des émulateurs, il me semble, c'est ça, c'est la préservation.
Ouais.
T'sais, si ça peut permettre justement de rendre accessibles des jeux qui vont se désagréger.
Mais autant que les jeux d'ordi de cette époque-là sont de plus en plus difficiles à trouver puis disparaissent parce que il y avait pas de conservation du code source comme ça se fait maintenant puis tout ça, tu sais, ben les jeux console, ben c'est ça comme tu dis, ça reste sur un support physique là, ça s'efface, ça se détruit, ça passe au feu.
Puis c'est des jeux comme je pense à Full Throttle sur Scum VM.
Ouais. Sur ce qu'on vient, oui.
Ouais, sur l'émulateur, dans le fond de ça, que j'ai jamais joué version PC, puis c'est vraiment difficile de jouer à ces jeux-là. Les vieux jeux de LucasArts, justement, peu importe, les vieux point-and-click action-adventure.
C'est pas exactement de l'émulation à ce moment-là, mais ça a la même fonction, où est-ce que ça permet de jouer aujourd'hui à quelque chose qui serait difficile de jouer aujourd'hui. C'est un interpréteur, en fait, à ce moment-là. Ouais.
Puis, mais effectivement, comme tu disais tantôt, là, maintenant, récemment, on en parlait un petit peu avant de partir l'enregistrement en se demandant c'est quand la dernière fois que j'ai comme émulé quelque chose, à part 15 secondes pour voir un peu quelque chose ou essayer une patente ou voir, t'sais,
vérifier quelque chose pour un podcast,
mettons par exemple là. Mais vraiment s'asseoir puis jouer à quelque chose d'émulé, j'ai peut-être essayé il y a de cela peut-être un an ou deux, genre de jouer à un Pokémon sur mon téléphone Android parce que tu peux rouler l'émulation là.
Ah, puis juste le concept de dire hey, toute cette vieille librairie de jeux là incroyable,
ouais,
tu l'as dans quelque chose que tu traînes tout le temps avec toi, c'est intéressant jusqu'à temps que tu commences à le faire.
C'est ça, parce que les contrôles, c'est de la merde.
Puis à un moment donné, c'est toujours le même problème que j'ai eu avec les émulateurs, c'est quand t'as trop de choix, tu joues à rien.
Candy Shop Effect.
Exactement.
C'est que ce soit les flashcards sur les consoles ou les Everdrive là, qui sont plus récents, c'est le problème où c'est pas quelque chose que t'as désiré, que t'as pris tes ressources pour acquérir, donc que t'as pas genre j'ai hâte que ce jeu-là sorte, ou j'ai dépensé 30$ pour ce vieux jeu-là puis j'aimerais ça l'essayer. Tu finis par juste regarder une liste de noms puis t'as rien le goût de jouer.
C'est ça, tu fais ok, celle-là, ok, c'est beau, prendre un autre, puis tu joues à rien là.
Puis t'sais, le plus récent, l'expérience d'émulation la plus récente que j'ai eue, puis bien, c'est pas mal aussi, Matt, c'est quand on a construit nos arcades. Avec le même, finalement, le Multi-Arcade Machine Emulator. Multiple Arcade Machine Emulator. Qui se veut justement ça, fait pour conserver les jeux.
En fait, ça va à peine de le mentionner que même, je sais qu'un peu tout le monde les connaît, mais si vous ne connaissez pas, le focus de même est sur la préservation.
Ouais.
Si un jeu est émulé de façon imparfaite, il y a un message qui apparaît au début. Puis en fait, à moins d'avoir des versions spécifiques de même, il y a toujours un message qui dit la légalité de la patente, puis le but du projet, que tu dois skipper pour arriver au jeu. C'est très, très clair, le focus, parce que la quantité d'émulateurs différents qui sont dans même est ridicule.
Ben oui, parce que
c'est ça, c'est pas une console unique, c'est un paquet de plateformes qui se retrouvent dans cet émulateur-là.
Mais ce que je trouve encore petit, on dit des fois c'est pas facile de revivre ces expériences-là. Je pense que les jeux d'arcade, c'est encore plus difficile de revivre cette expérience-là, parce que des arcades, ben, il y en a plus. Il y en a quelques-unes qui reviennent avec des formules un peu différentes. Là.
On arrête de la répéter de dire qu'il n'y en a plus.
Mais
des amis qui en font une ici.
Mais un arcade comme on avait quand on était ado, ça, il n'y en a plus vraiment.
T'sais, c'est ça, les nouvelles machines d'arcade sont comme des patentes weird qu'on trouve dans un cinéma.
C'est beaucoup axé sur les gimmicks de contrôle spécial. Une vraie moto sur laquelle tu vas conduire. Il n'y a plus les 6 boutons, un joystick, on va jouer à Street Fighter.
Ah oui, il y avait un double l'autre fois, je pensais que c'était une machine d'arcade. Puis quand je me suis même frappé dessus, il n'a pas trouvé ça drôle.
c'était pas un testeur de force. Nope. C'était un testeur d'à quel point tu peux te pousser vite de l'autorité.
Puis malheureusement, je cours pas vite.
C'était pas l'émulateur de GTA, un arcade de Grand Theft Auto.
C'était juste un sans-abri.
Matt qui brise toute la magie. Le mystère.
Oh, moi, je brise le mystère. Toi, tu brises les sans-abri. C'est bizarre, honnêtement. C'est ton affaire.
Piou, 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 piou.
Je sais pas pourquoi.
Mais tu sais, il y a une raison aussi à ça pour les arcades. À l'époque, le matériel des arcades était beaucoup plus dispendieux et beaucoup plus performant que ce qu'on avait à la maison. Ben, fait que t'avais pas la même expérience. À cette heure.
Mais ça reste une expérience de jeu qu'on peut pas vraiment avoir à part aller dans les nouvelles arcades qui sont là.
Qui sont rétro.
Maintenant, les rétro. Mais tu sais, cette expérience-là des contrôles d'arcade, d'un écran d'arcade, d'un cabinet d'arcade, côte à côte, un côté de l'autre, c'est ce qui valait la peine d'avoir construit l'arcade, c'est ces jeux-là qu'on jouait ensemble. Je n'ai pas joué réellement seul à l'arcade, mais c'est quand on jouait à deux, puis que c'est là le plaisir de le faire, qui ramenait cet esprit-là de back in the days.
Mais encore là on s'éloigne, puis c'est ça qui est intéressant, de l'émulation. Comme de l'idée que tu droppes de quoi sur un ordi puis tu joues avec ton clavier, là, quand tu montes un cabinet, tu te tenais des joysticks, tu branches ça sur une machine. Tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est pas de l'émulation, ça en reste, mais tu te mets à mettre un CT, un hardware, puis là, tu viens vraiment plus au côté de préservation puis de quasiment un hommage finalement à ce que c'était. Puis ça, je trouve ça intéressant, comme, un peu comme la NES Mini, là, dans le fond.
On préserve une expérience.
Ben, c'est ça, ben, c'est deux super, super bons points, justement, de... émuler l'arcade, tu peux pas juste rouler le software sur ta machine, il y a d'autres choses à ça. T'sais, puis la première fois qu'on a monté le cabinet puis qu'on a joué à un jeu de fighting épaule à épaule comme dans le temps, c'est là que tu te rends compte que ah oui, j'ai joué 1000 fois à ce jeu-là sur mon ordi émulé ou sur la version Xbox qui ont sorti, ça a jamais été ça.
Mais
c'est
non.
Puis la NES Mini, je pense que c'est l'exemple de s'il faut, c'est une façon de contrer le Candy Shop Effect.
Ben oui.
T'sais, oui, elle est limitée à 30 jeux pour des raisons évidemment de licence, mais il y a aussi un devoir de curation. Il y a une sélection de jeux vraiment exceptionnelle qui, si tu devais présenter le NES à quelqu'un, c'est dur de faire mieux que les 30 jeux qui sont là.
Moi, je suis prêt à gager que les gens qui ont pas touché, là, qui ont les 30 jeux qui venaient avec, jouent plus à ces jeux-là que ceux qui l'ont comme hacké pour mettre la librairie complète des jeux de NES. Ouais. Là. Puis là, ils sont comme... puis le Candy Store Effect encore. T'sais. Pour vrai, là, je suis sûr que les gens qui ont juste les 30 jeux jouent plus.
Ah, je pense à tout le monde qui se sont montés des Raspberry Pi. Là. Tu te montes un Raspberry Pi, tu peux sacrer 25 ans de gaming dedans dans une petite carte SD. T'as des jeux à plus savoir quoi en faire avec. Je pense que le monde passe plus de temps à les configurer et à les monter qu'à jouer.
C'est sûr.
Puis
tu sais, si t'as du fun à le faire, tant mieux.
J'espère.
Je pense que le monde est à l'ex-BMC dessus, puis ça devient un Media Center dans 2 mois.
Mais c'est ça, fait que l'émulation dans toute sa noblesse, donc dans son devoir de préservation, c'est mauditement important. Puis surtout quand on pense à des consoles qui ont été méconnues. Avant d'enregistrer, je parlais du Neo Geo Pocket Color, qui est une console que j'adore.
Avec son émulateur qui s'appelle...
Neo Pocket. Et puis, moi, encore une fois, un peu comme à l'époque du Game Boy Advance, quand j'ai vraiment découvert cette plateforme-là à travers l'émulation parce que j'avais pas de maudite scène, ben, le Neo Geo Pocket Color est même pas sorti au Canada. Puis j'en voulais dont une quand j'étais kid. Ben, kid, là, genre 15-16 ans. Parce que je trouvais que c'était vraiment cool. Tu sais, c'est comme du Game Boy Color, mais avec des jeux qui avaient l'air mauditement plus fluides. Puis là, on avait les jeux de combat de SNK vs. Capcom. Il y avait Mega Man Power Fighters. On avait du Metal Slug. On avait vraiment des beaux jeux. Puis le look simplifié était super beau, mais c'était pas accessible du tout. L'émulation est arrivée rapidement, était de super bonne qualité. J'ai pu jouer à cette plateforme-là qui m'était inaccessible à ce moment-là. Puis aujourd'hui, ça a beau pas être une plateforme qui est chère, ça reste relativement rare. Puis il y a bien des gens qui savent même pas que ça existe.
Ben moi, je pense que je le sais à cause de toi. Là.
Ouais, pareil, là. Moi, j'ai vu ça pour la première fois quand tu nous l'as montré.
Mais c'est ça, fait que ça donne une porte d'entrée à quelque chose qui aurait été oublié par beaucoup de monde autrement. Puis tout ce côté de préservation-là, c'est vraiment, vraiment important. Puis en plus, on l'a vu la semaine dernière à l'enregistrement, donc dans les dernières semaines pour vous, il y a des gens qui font des projets pour créer des versions parfaites des ROM de jeux qui sont sortis parce qu'il y a beaucoup de ROM qui sont disponibles, donc des versions des jeux qu'on peut télécharger qui sont imparfaites, qui ont des bugs connus à cause de la façon qu'ils ont été transférés, qui ont été dompés. Ce qui fait que le monde a vraiment à cœur la préservation de ces jeux-là. Puis, justement, l'histoire, là, c'est qu'il y a un gars qui a fait donner des jeux d'Europe, puis c'était comme 10 000 piastres US de jeux qui ont été perdus dans le transport. Mais ils ont finalement été retrouvés.
Okay.
Mais c'est ça, c'est... Mais le but du projet, c'était vraiment de créer des dumps parfaites de ces jeux-là. Fait que c'est important, puis merci de le faire, mais oubliez jamais, par contre, que c'est mauditement important qu'il y ait des choses comme les EverDrive qui existent. Parce que la EverDrive... T'sais, dans le cadre de l'émulation, là, quand on émule, le problème, le code du jeu est vraisemblablement parfait. C'est-à-dire qu'on a copié chacune des adresses mémoire, des lignes de code assembleur d'un jeu, on les a stockées dans un fichier. Le fichier du jeu est, selon toute vraisemblance, parfait. À part qu'il y a des erreurs comme ce qu'on vient de mentionner. Le problème, c'est l'émulateur. C'est ce qui doit simuler, ben en fait, émuler, la machine sur laquelle on joue. Puis c'est là que c'est créé par des gens, puis ils font, c'est du reverse engineering, c'est qu'ils partent à l'envers, puis ils interprètent les instructions de la machine pour recréer ce que la machine faisait. Plus qu'une plateforme est complexe, plus c'est une tâche complexe.
C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'émulateurs, dans le fond, qui sont toujours, encore et toujours en version 0. Point machin, là.
Mm-hmm.
Mais ça explique-tu la raison pour laquelle il n'y a aucun bon émulateur de 64?
Parce que plus que les machines vont être complexes, plus que c'est dur à développer. Puis plus que les... Parce qu'en plus, si on implémente de façon standard, parce que tu sais, on y va par observation. Ah ben là, à cet endroit-là, on le sait que le jeu fait telle ou telle chose. Mais quand les développeurs trouvent des façons weird d'accomplir certains effets, tu sais, exemple, le Game Boy Advance, avec la technologie d'écran, ils savaient que s'ils faisaient flicker, ils faisaient osciller une image au 60e de seconde, je pense, ça donnait de la transparence. Parce que l'objet ne revenait pas en pleine lumière et ne disparaissait pas, donc ça créait de la transparence. Quand tu arrives sur un émulateur, tu pousses cet effet-là, là, tu fais juste quelque chose qui clignote vraiment vite sur ton écran d'ordinateur. Tu sais. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que si tu l'émules by the book, tu n'as pas le résultat qui était utilisé sur la plateforme originale.
Oui, parce que les autres, dans le fond, ils développaient avec le
matériel.
Hardware, le matériel en tête. Mais oui, c'est logique.
D'ailleurs, par rapport à ça, c'est pour ça qu'il y a il y a un effet de flou qui est ajouté sur le Game Boy Player, sur le GameCube, pour cet effet-là de transparence que tu perds, sinon. Fait que bref, il y a toujours des différences. Puis il y avait un article débile sur Ars Technica d'un gars qui développait pour BSNES, un émulateur de Super Nintendo. Puis il avait créé une version aussi parfaite que possible de BSNES. Ça prenait un 4 coeurs, 5 GHz, quelque chose comme ça. Non, 3 GHz pour le rouler. Parce que c'est une question aussi de synchroniser le clock du processeur, l'horloge du processeur, avec l'horloge de ton processeur à toi sur ton ordinateur.
Puis il divisait pour aller...
Si c'est pas divisible, donc si t'as pas un qui est un facteur de l'autre, ben tu peux pas arriver à une synchronisation parfaite, donc t'auras jamais la même vitesse. Fait que comme tout ça qui doit être pris en compte...
D'où l'intérêt, comme t'étais au début, tu disais, d'une Everdrive ou d'une cassette finalement qui te permet de mettre des choses dessus pour la jouer sur le
c'est ça, parce que original. Fait qu'en acceptant que le code, le ROM, il est parfait, si tu peux le repousser d'une façon ou d'une autre sur le matériel original, tu règles tous ces problèmes-là. Puis c'est là qu'une Everdrive remplit une niche importante. Tant qu'on peut préserver les consoles accessibles, jouables, en bon état, on peut toujours retrouver les jeux qui pourraient être disparus ou qui sont difficiles d'accès ou juste mauditement chers, comme ça arrive présentement avec la vague de rétro.
Ouais, puis tu sais, dans une situation où tu veux pouvoir changer de jeu facilement, par exemple dans un bar où tu peux jouer à des jeux, là, c'est une mosaïque de bonne solution plutôt que swapper des cassettes à tout bout de champ, d'avoir un. Tu mets la cassette, la Everdrive est là, puis pouf, tu peux jouer à ce que tu veux. Puis tu sais, ça, c'est le genre d'endroit où est-ce que c'est pas grave que tu joues pendant 10 minutes, 15 minutes, puis tu changes de jeu, parce que c'est ce que tu aurais fait en général.
Puis pour revenir un petit peu à la NES Classic Edition, tu sais, on a vu justement, pour éviter le Candy Shop Effect, même s'il y a que 30 jeux, il y a les pochettes, il y a les manuels d'instruction, il y a quelque chose qui t'attire vers le jeu, sa petite présentation, juste la pochette, là, c'est ce qui faisait qu'on louait un jeu dans un club vidéo, anyway.
Ça, il était disponible.
Parce qu'il y avait la petite pinouche avec le velcro dessus.
Ah, je m'en allais là tellement. Là.
fait que c'est sûr que tu peux pas recréer l'expérience, mais un nom dans une liste, c'est pas suffisant.
Ben non. T'sais.
Puis c'est pas. Si tous les jeux sur une plateforme étaient de qualité, on n'en parlerait peut-être pas, mais c'est pas si simple.
C'est comme si le fait d'avoir le manuel virtuel, d'avoir la pochette, ça donne un côté tactile, malgré qu'il n'y en a aucun, mais qui est absent quand tu descends dans une liste, tu choisis.
Ben, on revient un peu.
Si t'es chanceux, c'est le nom, c'est pas un nom genre en japonais, avec des caractères que tu comprends pas.
Ouais, c'est ça que tu es comme bon, je vais cliquer dessus, moi, savoir c'est quoi. Puis ben, d'avoir le manuel aussi pour ben du monde, ils les ont jamais vus.
Ben oui.
Parce que c'est pas, tu sais, les boîtes des jeux, les hards des cassettes, tu les trouves facilement. Mais les manuels au complet, c'est pas quelque chose que tu vois régulièrement. C'est disponible, oui.
Puis c'est une époque où les manuels avaient des choses écrites dedans intéressantes, là, qui étaient plus poussées qu'aujourd'hui avec juste les.
J'ai pogné un jeu récemment que quand tu perds un combat, il te dit Read the instruction manual au NES, au Game Boy. Au Game Boy. Ouais, la version Game Boy de RTFM, j'étais comme. Yeah, c'était une autre époque en maudit. Ouais. Fait que oui, dans la préservation, le matériel alentour est important, surtout pour les jeux qui utilisaient les manuels, etc., comme méthode de protection du piratage. C'était plus sur PC qu'on voyait ça, évidemment. Là.
Oui, j'en vois à telle page.
Le plus récent exemple que j'avais vu, en fait, de protection de piratage physique comme ça, c'était dans le premier Metal Gear Solid, où tu devais contacter Meryl et le numéro de codec, donc le numéro de radio pour le rejoindre, était derrière la CD du jeu, la boîte de CD du jeu.
Wow.
Ouais. un petit mind blown, les gars.
Tu sais, tant qu'à essayer d'implémenter des affaires compliquées, puis d'aller comme chercher des façons de réussir à le craquer pour les... Là, c'est... Non, gars, ça...
Ouais, sauf que, Calic, j'ai-tu cherché la première fois que j'ai joué à Metal Gear Solid? Un codec number is on the back of the CD case. Ok, là tu te promènes dans un bureau, tu cherches un astic de CD case. Oui, hein? Tu fais te mettre en première personne, puis regarder les objets, puis là t'es comme, c'est où, calique, tu sais. Je pense que j'ai fini sur Google. À cette époque-là, c'était GameFAQs. Là. C'était que GameFAQs qui pouvait me répondre à ça, mettons.
C'est que GameFAQs qui était à l'Internet.
C'est ça. Non, ça fait que j'ai vraiment comme été stumped. Là. J'ai vraiment comme, ok, je sais plus quoi faire. Là. Puis là c'est comme, non, mais check quand on regarde la pochette.
Mais c'est bon.
Le jeu brise le fourth wall, tu sais.
Régulièrement dans le cas de Metal Gear. Là.
Mais je trouve qu'on a pas mal de même avis sur la situation. Tu sais, c'est intéressant. C'est intéressant pour préserver. C'est intéressant aussi, comme on disait tantôt, là, pour aller chercher une petite information, pour regarder un truc. Mais
je suis content par contre que présentement, il y a assez d'efforts qui est mis de la part des compagnies qui veulent préserver maintenant leur héritage. Fait qu'ils vont aller faire. Tu sais, mettons, on a eu Rare Replay, la collection de jeux de Rare sur Xbox One, qui est une lettre d'amour à ces jeux-là. Chaque jeu a une présentation avec sa musique, avec des achievements de réintégrer, etc. Donc, on se contente pas de juste domper un ROM comme la Virtual Console le fait souvent, là, qui est pas la meilleure façon de mettre en vedette ce catalogue-là. Il y a un contexte à ça, il y a des choses de plus que tu peux faire pour nous rappeler pourquoi qu'on aime ces jeux-là ou pourquoi qu'on aurait dû y jouer ou leur porter plus attention.
Moi, c'est tout le temps ce que j'ai trouvé qui manquait sur le NES Remix, là, comme on parlait il y a deux semaines là, sur Wii U ou 3DS. Il me semble que ça aurait été le fun que, je sais pas, si tu finis toutes les challenges d'un jeu, t'as le jeu.
Ouais. T'sais? Mais non, ils veulent bien trop tes ventes à 5$ sur Virtual Console. Hein?
Puis t'es revendre sa prochaine génération.
Pas pas là-dessus.
Mais on sait pas s'ils veulent nous les vendre sa prochaine génération.
Il y en a pas.
Il y a pas encore de Virtual Console. En tout cas, tu sais.
Ouais. Non, c'est ça, je dis
c'est
pas,
clair
pas là-dessus.
C'est clair qu'une semaine après, il n'y a toujours pas.
Alors, c'est ça notre réponse, en fait, à c'est quoi nos émulateurs préférés.
fait que monsieur Propos, désolé d'avoir semi-répondu à votre question, hein, c'est de même.
Je te suggère fortement un Everdrive. Et voilà. Alors, merci tout le monde.
Hey, à la prochaine.